Vous écoutez L'œil dans le micro, le rendez-vous de la création radiophonique. Documentaire, rencontre, fiction,
documentaire, expérimentation, rencontre, fiction, expérimentation sonore. L'œil dans le micro, le rendez-vous de la création radiophonique.
Bonjour. Aujourd'hui, c'est la rencontre bouleversante avec Juliette, qui témoigne du cancer du sein. C'est des paroles choc. Une vie qui bascule un 11 septembre 2013, à l'annonce du cancer. L'ablation du sein qui suit peu de jours après. C'est une bataille qui débute. Elle est là. Un sourire qui monte très haut derrière les oreilles. Juliette arrive avec une énergie renversante de femme qui est née une deuxième fois. Atteinte du cancer du sein en 2013, à l'âge de 41 ans, Juliette nous raconte son expérience et choisit le chemin de la rédemption. À sa façon, une poésie se dégage de ses mots. Un événement tragique, vu différemment, avec un regard neuf, nettoyé d'une perception revigorante. Juliette nous raconte son récit et d'où elle puise sa force quotidienne qui la domine pour ne plus jamais vivre dans le passé. Une guitare au bout des doigts, Juliette alias Carta, son nom d'artiste, nous communique un message d'amour sur les ondes de Bram FM.
Alors écoute, je m'appelle Juliette Van Der Worm. Je suis née à Neuilly-sur-Seine, chez Sarco. J'ai grandi un peu à Paris, après j'ai grandi en Anjou, à la campagne. C'est là que j'ai aimé et appris ce que c'était que le bonheur de la campagne, des vaches et des prés. Après je suis revenue à Paris, j'avais 10 ans et j'ai passé plus de 20 ans à Paris. Je suis arrivée en Corrèze il y a 10 ans, cette année ça fera 10 ans, parce que j'étais donc mariée à un Corrézien. Donc on est venu avec nos trois filles et voilà, on s'est installé ici. Et sans regret, parce que j'ai vraiment retrouvé le bonheur de la nature. Océan de verre qui tous les jours me porte et me réconforte. Depuis 2013, je vis une aventure extraordinaire qui s'appelle l'aventure du cancer. Donc ça a commencé que je faisais un petit CAP cuisine au CFA de Tulle. J'étais retournée à l'école parce qu'avant j'étais peintre en bâtiment à mon compte. Et puis en 2012, j'ai eu super mal au bras, j'arrivais plus à lever le bras. Donc j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire un CAP. Donc j'ai fait un CAP cuisine parce que je voulais ouvrir un petit resto ouvrier vers Argentat, tout ça. Pendant mon CAP, à la fin du CAP, au mois de mai, on m'a découvert une maladie de la thyroïde qui s'appelle la maladie de Basedow. Donc voilà, j'ai perdu 5 kilos en un mois. Donc en fait, je commençais à être malade, mais je ne le savais pas. Donc ça, c'était au mois de mai. Bon, j'ai eu mon CAP par miracle, je ne sais pas comment, mais je l'ai eu. Et puis l'été s'est passé où j'étais pas très très bien. Et puis en septembre, je suis allée à l'hôpital pour un truc gynéco à la con. Et puis quand même, j'ai dit, vous voulez pas me toucher les seins, je sens que j'ai une boule. Voilà, parce que donc l'autopalpation, c'est quand même hyper important. Mesdames, si vous m'écoutez, il faut se toucher les seins, il faut, voilà. Et quand on a une boule, même si elle fait pas mal, au contraire, même si elle fait pas mal, il faut aller demander ce que c'est. Et donc, ils m'ont passé un petit scanner et puis bah, ils ont vu qu'il y avait un truc pas net. Donc, ils m'ont dit, ce serait bien de passer une mammographie. Donc, ça, c'était en septembre 2013. Et en fait, j'avais deux tumeurs, ACR4, ACR5, 11h, 13h. J'avais deux tumeurs. Donc là, je suis partie du jour au lendemain dans cette aventure de fou du cancer. C'est-à-dire que des examens en permanence pour pas voir si on a des métastases partout ou pas, etc. etc. De là, ils m'ont dit que bah, je n'avais pas le choix. Il fallait que je vive cette ablation du sein droit, il fallait l'enlever complètement. Donc ça a été le 5 novembre 2013, on m'a enlevé un sein et ça... on en reparlera après, mais c'est quand même au-delà de tous les traitements qui sont difficiles, c'est le truc qui fait péter les plombs, c'est le truc, la question la plus dure à résoudre, c'est se retrouver en tant que femme sans un sein. C'est comme si un mec se faisait enlever une couille, c'est exactement le même truc, c'est-à-dire c'est cette idée qu'on est un homme parce qu'on a deux couilles et qu'on est une femme parce qu'on a deux seins. Donc il y a eu cette opération, mais sur le coup on est un petit soldat, on fait tout ce qu'on nous demande et puis c'est tout. Écoutez, soit je suis très bon public ou pas, mais je crois que moi j'ai été soignée comme une reine, accueillie comme une reine au service du docteur Boubi à Tulle. Docteur Boubi, je vous aime. Tout le service, les infirmières, d'une humanité, de vraiment un petit service où elles sont avec moi à fond, avec nous à fond. Non, on est extrêmement bien soignées. Merci la France, toutes ces machines auxquelles on a le droit, toutes ces cette technologie, c'est vraiment du luxe. Alors, sur le coup, on s'en rend pas tout à fait compte parce qu'on est tellement mal que voilà. Mais en même temps, moi, j'ai quand même tout de suite senti que j'étais extrêmement bien soignée. Le truc le plus dur, c'était la biopsie sans anesthésie. Ça a été dur. Et bien, c'est trois coups de fusil, trois coups de pistolet dans le sein qui vont chercher dans la tumeur un petit bout de la tumeur pour l'analyser. Donc, avant même l'ablation, hein, pour confirmer bien que c'est bien un cancer, etc. Et donc, ça, c'est sans anesthésie. Et ça, au niveau douleur physique, ça réveille. Au moment où ça percutait dans la tumeur, je savais que j'avais un cancer. C'était tellement douloureux que là, on tapait dans le mal. Donc, ça fait prendre conscience aussi qu'on a vraiment un cancer. Donc, la question se pose, est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va mourir? Et puis, ben moi, j'ai attendu le dernier moment, mais j'ai fini par poser cette question. Comme quoi, on la pose, à mon avis, tous et toutes aux médecins. Au fait, sur le bas de la porte, comme ça, au fait, est-ce que je vais mourir ? Énormément de femmes qui en meurent. Il y a 171 millions de cas par an dans le monde entier. Et il y en a, je ne sais pas, un tiers qui en meurt. Hein. Il y a beaucoup de femmes. Il y a eu 11 000 cas de mort l'année dernière en France. Donc on en meurt quand même. Ben oui, ça dépend à quel stade c'est pris, ça dépend de beaucoup de facteurs, j'imagine. Au début, c'est tout le temps, c'est scintigraphie osseuse, c'est tout le temps des examens pour vérifier, ce qui est une bonne chose, que ça ne soit pas étendu ailleurs. Donc moi, j'ai eu la chance que ce soit donc, encore capsulé dans le sein, parce que j'avais un cancer infiltrant. Donc ils voulaient être sûrs que les organes prêts n'étaient pas touchés, et donc ils n'étaient pas touchés. Donc c'est une chance. Donc on a beaucoup d'examens pendant 2 mois après l'annonce. On fait que ça, que aller à l'hôpital, faire des examens, être transbahuté d'un service à un autre, comme un petit soldat. Et puis après l'ablation, je me suis sentie délivrée. J'avais décidé qu'effectivement tout était là, on me l'avait enlevé, donc je me sentais quand même délivrée. Alors après, on rentre dans une autre phase qui est les traitements. Alors on vous pose une chambre implantable, porte à quatre, qu'on appelle. Donc ça, c'est sous la peau, c'est une petite prise qui est sous la peau, mais qui est assez grosse quand même, qui fait d'ailleurs assez mal et qui est pas très agréable, mais qui va permettre quand même pendant la chimio d'être piqué toujours au même endroit. Donc c'est affreux comme sensation, mais d'un autre côté, avant on piquait les gens dans le bras partout, ils n'avaient plus de bras. C'était l'enfer. Et là, on nous pique toujours dans cette petite capsule. On respire un bon coup, hop, on est piqué. Et après, c'est chimio. Alors, évidemment, la chimio, c'est quelque chose d'horrible, affreux comme produit. Moi, j'ai eu 4 chimios et 25 séances de rayons. Donc, il y a des femmes qui ont plus de chimio. Mais souvent, c'est des femmes qui gardent le sein. Donc, qui en a gratté, mais qui peuvent garder leur sein. Plus on a des gros seins, en général, plus on peut garder son sein. Enfin, c'est en général, je parle, hein, y a des cas, voilà. Moi, comme j'avais des petits seins, ils n'ont pas pris le risque, c'est comme ça. Donc j'ai fait ces chimios que j'ai commencé le 13 décembre 2013, qui m'ont amené jusqu'en fin février 2014. Donc tu perds tes cheveux, enfin j'ai perdu mes cheveux, j'avais les cheveux très longs, donc l'oncologue m'avait dit couper avant la chimio. Donc j'étais comme Marie-Antoinette, hein, je suis allée dans la salle de bain, je me suis coupé les cheveux, et c'est une expérience très très douloureuse. Parce qu'on sait qu'on passe, on a l'impression de partir à l'échafaud. Et j'ai vachement bien fait de les couper parce qu'effectivement, à la deuxième chimio, plus de cheveux, terminé, tout qui part à volo. Donc là, on se retrouve, il nous manque un sein, on n'a plus de cheveux, on est livide, blanc, transparent, bleu, vert. On est extrêmement mal, extrêmement fatigué. On a aussi des prises de sang tout le temps, parce qu'ils vérifient tout le temps les taux, les globules et les machins. Donc ça, c'est une expérience terrible. Alors moi, je suis cash, je parle toujours de tout, très facilement. Donc c'est ça qui m'a certainement aidée. C'est-à-dire que j'ai pas du tout caché, j'ai pas du tout... Non, au contraire, je voulais que ça se sache, dans le sens où je voulais qu'on sache pourquoi j'étais pas bien. J'avais pas envie de faire semblant d'être bien, pour pas le dire. Donc moi, j'ai tout partagé. Et puis surtout, j'ai un super médecin généraliste qui m'avait trouvé la maladie de la thyroïde et beaucoup de choses. Et je m'étais dit, bon, avec les filles, parce que j'ai des adolescentes, j'ai fait un rendez-vous, en fait, en famille. On est allés tous voir mon médecin généraliste, Francis Augry, bisous, bisous. Et donc, je lui ai demandé qu'il explique aux filles ce qui allait m'arriver, ce que la chimio allait me faire. Et ça a été une bonne chose parce que du coup, les filles, quand elles m'ont vue, eh bien, elles étaient au courant. Elles savaient que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais être toute blanche, que j'allais avoir l'air plus malade qu'avant. Et c'est ça que les enfants souvent ne comprennent pas, c'est que pendant le soin, en fait, on a l'impression qu'on va mourir. Alors qu'en fait, on est en train de guérir, on se bat pour guérir. Et donc, du coup, ça a été une bonne chose. Francis a tout expliqué aux filles. Voilà, votre maman, elle va vivre ça. Elle aura l'air très fatiguée. Elle aura l'air plus malade. Mais vous inquiétez pas, ça va remonter après. Du coup, quand c'est arrivé en vrai, bah, les filles ont vu que c'était vrai et elles étaient rassurées. Moi, j'ai eu la chance d'avoir leur père qui m'a énormément aidée et soutenue. Donc, j'ai été portée. J'étais pas seule. Il y a des gens qui vivent ça tout seul, c'est encore autre chose. Moi, j'étais quand même soutenue en famille. J'avais mes amis d'avant qui sont toujours mes amis d'aujourd'hui. J'ai pas eu de gens qui m'ont fui, à part dans les copinages ou les connaissances. Mais les amis, non. Les amis étaient là. J'avais une copine qui me faisait de la confiture de cynorhodon, c'est plein de vitamine C. Voilà. Une autre copine qui me ramassait des oranges pour que je reprenne. Voilà. Non, j'ai été hyper soutenue. Mais malgré tout, bon, on est seul dans sa tête. Donc la chimio, c'était une expérience pour moi, j'allais dire, de trans, parce que d'abord c'est un produit chimique qui passe dans tout le corps, et quelques heures après la chimio, ça passe dans le cerveau. Et là, c'est là que c'est l'horreur, qu'on a des nausées, des machins, on est très très mal, mais en même temps, moi je me suis fait beaucoup de films pendant la chimio. D'abord, je suis sûre que j'ai des origines turques depuis longtemps. Donc là, je suis partie dans un délire sur les cartes. J'ai pris plein de cartes du monde, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, de avant, voilà. Et j'ai essayé de trouver mon existence sur les cartes. Donc ça, c'était un délire à moi qui m'a beaucoup aidée. Et puis j'ai des chiennes, j'ai deux chiennes qui ne m'ont pas quittée pendant la chimio, qui quittaient le lit juste pour aller bouffer et pisser. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pas propre de dormir avec ses chiens. Moi, j'avais deux chiens sur le lit qui me serraient et elles m'ont énormément aidée. Et donc je m'imaginais que j'étais en traîneau avec une grosse couverture dans la neige et que c'était mes chiennes qui me tiraient. Voilà ce que j'avais dans la tête pendant les chimios. Et ça m'aidait. Et les cloches tibétaines que j'écoutais beaucoup de fréquences de musique, parce que la musique guérit, le son est une vibration, une fréquence, tout est fréquence dans la vie. Et donc nos molécules, j'en suis moi convaincue que les molécules du corps réagissent aux fréquences. Et donc la lumière, le son, ce sont des fréquences. Et c'est vrai que je pense qu'on soignait comme ça avant aussi les gens, hein, avec ces fréquences. Donc moi, les cloches tibétaines, pendant la chimio, je n'écoutais que ça. Et c'est ce qui me permettait d'avoir des demi-sommeils, de me reposer, de... Ouais. J'ai commencé l'hypnose, l'auto-hypnose. Je me mets en auto-hypnose maintenant en 2 minutes. J'arrive à complètement... quand je dors pas la nuit, je fais l'auto-hypnose et ça marche très très bien. J'ai fait beaucoup de méditation, chose que j'étais incapable de faire avant tellement j'étais speed. Et dans des techniques de respiration de yoga, tout ça m'a amené à me faire du bien, à remonter l'immunité, j'en suis sûre. Mais pour moi, c'était un ensemble de choses. Après, c'est à nous de trouver les outils qui vont nous faire du bien. J'étais déjà artiste avant, je suis artiste depuis que je suis née, c'est clair. Et surtout depuis que la vie a fait que bah, tu prends une baigne, deux baignes, tu vis des choses qui sont irrésolvables, des scènes qui sont irrésolvables. Et donc à partir du moment où tu vis dans ta vie une scène qui est hors de la réalité, en général tu vas fuir la réalité. C'est ce que j'ai fait très jeune, j'ai commencé à fuir la réalité et donc à me mentir pour pouvoir vivre. Et donc j'ai choisi nécessairement toutes les expressions qui me tombaient dessus. La musique, ça a été tard, mais au début c'était vraiment l'art plastique, écrire, dessiner, peindre, danser. J'adore danser, tout ce qui permet de s'exprimer et d'être, en fait. La radiothérapie, c'est une autre chose, c'est quelque chose qui n'est pas très douloureux, qui est très fatigant. Tu te retrouves avec un coup de fer à repasser, tu as l'impression qu'on t'a collé un fer à repasser sur la zone qui est à traiter, qui rougit de plus en plus au fil des jours. Une fois par jour, pendant 25 jours d'affilée, il ne faut pas louper un jour, c'est à Brive. Alors, quand on a la pêche, on peut conduire. Moi, j'ai conduit aller-retour jusqu'à Brive tous les jours, pendant 25 jours. À l'aller, ça va, on n'est pas trop fatigué. Au retour, on est un peu fatigué. Mais je prenais des routes par les petites campagnes et quelquefois, je m'arrêtais et ça me permettait d'être dans la nature. Parce que de toute façon, pendant cette expérience du cancer, plus ça allait, plus j'avais l'impression que j'entendais pour la première fois, que je voyais pour la première fois de ma vie. Et à la fin de ces 25 séances de rayons, j'avais vraiment ça, j'avais l'impression que je voyais des plantes pour la première fois de ma vie. Donc c'était quand même une joie. Donc j'avais une heure de route tous les jours, oui, ben, je rentrais. Alors bon, des gens ne peuvent pas conduire, prennent le VSL parce qu'ils ont besoin d'être portés, besoin d'être pris en charge. Moi, je suis quelqu'un de très indépendant, j'aime pas trop être pris en charge. Donc c'est vrai que j'ai préféré faire comme ça et finalement, ça m'a boosté parce que j'avais pas le droit... À l'accident, j'avais pas le... Donc on se tient, voilà, j'arrivais chez moi, je faisais une grosse sieste. Mais finalement, ce moment de solitude au retour de la thérapie, qui était donc dans la salle Monet d'hier de Brive, donc moi, naturellement, j'entendais Monet d'hier, parce qu'on est très, pas con, mais on est très naïf à ce moment-là, on cherche beaucoup à trouver un sens à ce qui nous arrive, et c'est humain. Et moi, ça avait un sens dans ma vie. Ce cancer avait un sens, dans le sens où, oui, ça résonnait sur des choses qui étaient liées à l'enfance depuis très longtemps. Et tout d'un coup, pour moi, c'était la réalité. Je venais me débarrasser et soigner cette enfance brisée et m'en débarrasser une fois pour toutes. Une rédemption totale. Totale. Et moi, je l'ai pris comme une chance. Je l'ai pris comme la chance de ma vie où, si je veux vivre, je ne vivrai plus jamais pareil. Je ne vivrai plus jamais dans le passé. C'est ça, la chance. C'est-à-dire que le passé, d'abord, le temps n'existe pas. Ça, j'en suis convaincue. Le temps n'existe pas. L'humanité est une et indivisible. La Terre, on fait partie de la Terre. Les animaux, c'est un et indivisible avec le cosmos. Et sans être mystique à deux balles, c'est une évidence. Et dans cette unité indivisible, il y a ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité, c'est pas un temps, c'est un état. C'est un état d'être. Et ça, j'en suis convaincue. Donc le temps, c'est fini. Avant, je vivais toujours dans le futur. Il fallait des projets, des machins, parce que j'étais collée dans le passé. Maintenant, je vis au présent. Chaque journée, il y a un truc, c'est génial.
L'unité indivisible. Vous êtes toujours dans l'émission L'œil dans le micro. Juliette nous parle de son cancer, de ses visions chamaniques, de sa guérison. Un message d'espoir porté par des paroles qui vont un peu plus loin que la science. un discours politique aussi. Une réflexion de l'image sexuelle, féminine. Juliette nous livre ses pensées sorties d'un combat avec la vie, contre les schizophrénies du monde.
Et puis après, bah, j'ai pété les plombs et j'ai fait 15 jours d'HP à Tulle. Et ça, je tiens à le dire, j'assume complètement, je ne me sens pas folle pour autant. Au contraire, d'ailleurs, je pense que d'ailleurs, les psys m'ont dit que c'était tout à fait normal que je puisse en arriver là. C'est-à-dire, c'était cette question de dire, mais est-ce que je reste une femme ? Qu'est-ce que c'est être une femme ? Qu'est-ce que c'est être une femme ? Qu'est-ce que c'est que la sexualité ? Qu'est-ce que c'est que le désir ? Qu'est-ce que c'est qu'aimer l'autre ? Qu'est-ce que c'est que vouloir être aimé par l'autre ? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette putain d'image ? Partageons nos singularités. Et puis, la souffrance, elle est horizontale. Chacun souffre. Tout le monde a son lot de souffrance. Mais il faut tout de même mettre des priorités. Il y a ceux qui se prennent des bombes dans la gueule tous les jours. Donc là, moi, j'estime que ce que je vis, c'est rien. Mes enfants ont à manger tous les jours. Tout va bien. C'est ça aussi que, à mon avis, les gens perdent quand ils apprennent qu'ils sont malades. D'abord, moi, j'ai jamais trouvé que c'était une injustice. Parce que la plupart des gens disent « Putain, ce que je vis, c'est une injustice. C'est trop injuste. » Non, c'est pas injuste. L'injustice, elle est réelle pour tout le monde. Donc, c'est comme ça. Mais si on le voit comme une injustice, j'ai peur qu'on se sente... On reste dans la position de la victime. Non, des victimes, il y en a en vrai tous les jours, d'actes de barbarie, des femmes qui meurent sous les coups de leur mari en France. Hein, tous les deux jours, il y a une femme qui meurt en France sous les coups de son mari. Les viols et la guerre. Là, tous les réfugiés, tous les gens qui fuient leur pays parce qu'ils n'ont plus le... Non, c'est une autre vie, ça. Voilà, il faut remettre un peu les choses dans l'ordre, je pense. Donc les 15 jours d'HP m'ont permis de me recentrer sur est-ce que je suis vivante ? Oui. Suis-je toujours Juliette ? Oui. Je suis Juliette. On m'a ôté beaucoup de choses, mais dans ce vide, cette partie vide, parce qu'en plus, c'est vrai que techniquement, je dois le dire, quand on vous enlève un sein et la chaîne ganglionnaire, déjà, j'ai très mal au bras souvent, mais surtout, on a une partie du corps qui est morte, qui est anesthésiée. Donc, c'est une région morte. Donc, si quelqu'un me caresse, je ne sens pas. Et ça, c'était terrible au début. Ça, c'était vraiment terrible. Après, les nerfs repoussent. Petit à petit, j'ai un peu plus de sensations, etc. Mais finalement, je me suis dit que dans ce vide, c'était comme dans l'espace, quoi. La nature n'aime pas le vide. Donc, il y a toujours un moment donné où c'est une sorte de nébuleuse qui arrive. Et dans ce vide, se crée la vie. Et puis cette année, parce que je savais qu'il y avait cette dernière opération qui était obligatoire pour moi, qui était le 29 avril de cette année, enfin je me suis fait opérer le 30, qui était qu'on m'enlève l'utérus et les ovaires. On a beau dire, c'est des organes, on les enlève, c'est pas rien. C'est comme quand on a l'utérus, c'est la prostate chez le mec. C'est-à-dire qu'un mec à qui on enlève une prostate, bah, il aura du mal à bander, et voilà. Et curieusement, et je tiens à le dire aussi, pour une femme, quand elle fait l'amour, de toute façon, bon, si on se fait tirer une nuit comme ça, bon, voilà, je passe. Mais... dans le désir profond, dans l'activité sexuelle, dans ce qu'on a envie de donner ou que l'autre désire en nous, le fait que l'utérus existe, le fait que peut-être un enfant puisse arriver, même si on n'en veut pas, même si ce n'est pas le propos quand on passe une nuit avec un charmant jeune homme, eh bien, le fait que l'utérus existe, ça fait partie du désir. C'est-à-dire, et là, on est complètement femelle tribale, on revient à quelque chose de complètement ancestral. C'est-à-dire, oui, prends-moi parce que je peux te donner quand même... un enfant. Et donc, le fait qu'on enlève l'utérus, on se sent aussi tout d'un coup coupé. On ne pourra plus faire désirer ce truc-là. On a l'impression. Hein, tout ça, c'est une impression. Donc, il faut recadrer beaucoup de choses dans sa tête. Les Égyptiens disaient que le centre de l'intelligence était dans le cœur. Je pense qu'ils ont entièrement raison. La véritable intelligence est située dans le cœur. C'est-à-dire que c'est aimer. Toute l'intelligence... des gens, les gens les plus intelligents sont des gens qui aiment énormément. Ce sont des gens qui ont un amour infini de l'autre, de l'humanité, des cultures, de toutes les cultures et de la nature. Le cancer a explosé mon corps a été un champ de bataille. Et c'est vrai qu'avant, j'étais tout le temps en guerre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et que maintenant, face à la guerre, c'est drapeau blanc. Donc maintenant, c'est chansons d'amour, images d'amour. Je pense qu'il faut s'exprimer. Et voilà, moi, en tout cas, en tant qu'artiste, bon, surtout musicienne, c'est évident que j'en fais des chansons, c'est sûr. Pour échapper un peu à, voilà, à la réalité. Alors je m'appelle Carta, les gens me connaissaient avant, je m'appelais Carta Atrac parce que j'étais quelqu'un qui est très très attaché à l'envers du décor. Donc j'avais rajouté Atrac parce que j'ai pris ce nom, j'avais 20 ans, c'était mon aîné qui avait trouvé ce nom pour une marionnette, Carta, et moi j'ai rajouté Carta Atrac. Pourquoi ? Mais parce que j'étais tout le temps attachée à cet envers du décor. Les gens vous présentent une façade, mais il y a l'envers du truc. Mais maintenant, j'ai simplifié. Parce qu'en fait, je faisais beaucoup la guerre à cet envers du décor. C'est-à-dire que toutes ces schizophrénies qu'on vit, c'est-à-dire on fait la guerre à Daesh, mais on leur vend des armes. Tous ces trucs schizophrènes où il y a l'envers du décor. C'est là, pour le coup, ces injustices profondes, parce que les gens ne sont pas au courant et on manipule dans des trucs à la con, parce que c'est vrai quand même, la France est le deuxième exportateur d'armes au monde, on les vend bien ces armes. Je vais faire la guerre différemment, avec un drapeau blanc et avec une guitare. Ouais, exactement.
Une rencontre avec Juliette alias Carta. Parole sur le cancer du sein. Vous pouvez retrouver Juliette sur Woman Carta et Amazon Forever sur Facebook. Elle vous répondra avec grand plaisir. C'était L'œil dans le micro. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt sur Bram FM.